Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, qui est à l'origine de l'attentat dans une salle de concert près de Moscou qui a fait plus de 150 morts, soit le plus meurtrier sur le sol russe depuis une vingtaine d'années ? Très vite, vendredi, une organisation a revendiqué l'attaque sur la messagerie Telegram. Il s'agit de l'État islamique au Khorasan, une branche de l'organisation implantée en Afghanistan et en Asie centrale. Alors, depuis quand cette branche de l'EI a-t-elle acquis la capacité de projeter des attaques à l'étranger ? Pourquoi s'en prend-elle à la Russie ? L'organisation pourrait-elle également frapper en Europe ? Pour répondre à ces questions, je reçois Jacques Folleroux, spécialiste des questions de terrorisme et connaisseur de l'Asie centrale. L'EIK, une nouvelle menace terroriste mondiale, un épisode de Margot Lanuzel, Garance Munoz et Diane Jean, réalisation Thomas Zeng. Nous sommes le vendredi 22 mars. Plusieurs centaines de spectateurs se trouvent au Crocus City Hall, une salle de concert de la banlieue de Moscou. Ils s'apprêtent à voir le groupe de rock Picnic quand, vers 20h, plusieurs individus armés, au moins 4, se mettent à tirer dans la foule. C'est la panique. Les spectateurs s'allongent entre les sièges pour tenter d'échapper aux balles. Les terroristes incendieront ensuite le bâtiment avant de prendre la fuite. Quelques heures plus tard, et alors que sur les réseaux sociaux, les hypothèses et théories sur les auteurs de l'attentat se multiplient, un communiqué vient revendiquer l'attaque. Son auteur, l'organisation État islamique au Khorasan.
Les combattants de l'organisation État islamique ont attaqué un grand rassemblement de chrétiens dans la ville de Krasnogorsk, à la périphérie de Moscou, tuant et blessant des centaines de personnes et causant de grandes destructions avant de se retirer en toute sécurité.
Une revendication que le Kremlin feindra d'ignorer après l'attaque. Vladimir Poutine préférant faire un lien avec l'Ukraine, pays vers lequel les terroristes fuyaient selon lui. Mais lundi, l'évidence s'est imposée. Mode opératoire, communication sur les réseaux sociaux, photos et vidéos filmées par les assaillants, Vladimir Poutine finit par reconnaître qu'il s'agissait d'islamistes radicaux, tout en continuant d'accuser l'Ukraine. Bref, avec cette attaque, l'EIK, la branche afghane de l'organisation État islamique, démontre sa capacité à organiser un attentat à l'étranger. Mais alors, qui sont ces combattants et doit-on craindre des attaques en Occident ? Bonjour Jacques.
Bonjour.
Alors Jacques, on va revenir avec toi aujourd'hui sur le groupe qui a revendiqué l'attentat de Moscou, l'EIK. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qui ils sont et comment ils sont nés ? On se souvient qu'il n'y avait qu'un seul État islamique en 2015 qui était implanté en Irak et en Syrie. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette EIK ?
Alors, il faut bien avoir à l'esprit que l'État islamique, à l'origine, ce qui différenciait d'Al-Qaïda, par exemple, c'est que Al-Qaïda, c'était une formation très réduite, qui ne revendiquait pas de territoire, qui fonctionnait avec des unités qui se projetaient vers à l'étranger et qui essayaient d'atteindre des cibles politiques, économiques, stratégiques.
Donc, il y en avait plusieurs, dont Acmi.
C'est ça. Il y avait donc des branches, il y avait des filiales d'Al-Qaïda dans un certain nombre de régions du monde et qui seront à l'origine d'attaques très violentes, mais qui seront des atteintes symboliques au pouvoir de l'Occident, c'est les attentats du 11 septembre, etc. Ça, c'est Al-Qaïda. Et ensuite, vous avez une organisation comme l'État islamique qui n'est pas du tout dans cette revendication-là. Ils cherchent d'abord à se créer un sanctuaire et ça a été en effet ce territoire, un État, ce que vous appelez un État, qui était à cheval entre la Syrie et l'Irak. Et à partir du moment où la coalition internationale a commencé à faire la guerre à l'État islamique...
Ils ont perdu le territoire.
Ils ont perdu le territoire. Et là, on est rentré dans une autre stratégie. Donc, on est dans les années 2018-2019. Les troupes restantes de l'État islamique vont essayer de se réfugier et se trouver de nouveaux sanctuaires.
Dont l'Afghanistan.
Dont l'Afghanistan. Et là, on rentre en effet dans une stratégie de régionalisation. Et l'une des branches qui va réussir finalement à se restructurer, ça va être en effet l'État islamique de Khorasan. Khorasan, c'est un nom un peu ancien qui, en fait, désigne une zone géographique qui intègre une partie de l'Asie du Sud, l'Iran, l'Afghanistan, une partie de l'Asie centrale. Et cette branche-là, elle va réussir à se restructurer et à prospérer en grande partie grâce à l'instabilité de la région afghano-pakistanaise.
Donc, il s'implante en Afghanistan, qui était retombé en 2021 aux mains des talibans. Alors, comment est-ce que ça va affecter l'implantation territoriale de l'EIK ?
Alors, l'État islamique dans cette zone, là, l'EIK, ils sont, comment dire, ils vont réussir à s'implanter avant le retour des talibans. Ils vont faire la guerre au gouvernement afghan soutenu par les Occidentaux. Ils vont s'implanter notamment dans la zone nord-est afghane, hein, dans des repères perdus au fin fond des montagnes, à la frontière avec le Pakistan. Ils vont aussi faire la guerre aux talibans à ce moment-là. Les talibans vont à la fois être engagés dans la reconquête du territoire afghan, etc., dont ils ont été sortis, mais ils vont aussi se battre contre l'État islamique. Et donc là, on est sur des rivalités de territoire, des rivalités entre personnes, des rivalités entre chefs, etc. Et l'État islamique va quand même réussir à prospérer en s'agglomérant des gens en rupture de banc, des gens qui sont issus d'autres structures radicales, islamistes radicales, à cheval sur le Pakistan et l'Afghanistan. Et l'arrivée et le retour au pouvoir des talibans le 15 août 2021 ne va pas non plus sonner le glas de l'État islamique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, 2021-2024, on peut même dire que la principale menace, finalement, qui est aujourd'hui armée, qui s'oppose aux talibans, c'est l'État islamique.
Et à combien est-ce qu'on estime le nombre de combattants en tout ?
Alors, entre 2021 et 2024, les chiffres qui sont retenus, que ce soit par les services de renseignement occidentaux, par l'ONU, hein, qui a publié plusieurs rapports sur le sujet, on est entre 2000 et 4000 personnes sur l'ensemble de la région.
Et donc, tu dis qu'aujourd'hui, le groupe constitue l'une des principales menaces de la région. Cette menace, comment est-ce qu'elle s'est manifestée ces dernières années ?
Ces dernières années, elle s'est d'abord manifestée par la poursuite d'une activité de violence, attentats, des kidnappings, des assassinats ciblés, mais qui vont viser essentiellement la communauté chiite. La spécificité de l'État islamique, c'est en effet de viser les chiites, d'autres musulmans. Hein, les premières victimes de l'État islamique, ça a toujours été les musulmans, et notamment les chiites, et c'est le cas en Afghanistan. Donc, ils vont viser des écoles dans le nord-est, dans une zone de Kaboul là, qui est essentiellement habitée par des chiites. Ils vont ensuite attaquer des cibles plutôt talibanes. Ils vont attaquer des cibles occidentales, s'il y en a. Mais les talibans vont aujourd'hui de plus en plus constituer justement des cibles préférées donc, de l'État islamique.
Ok, donc l'EI se développe en Afghanistan avec pour cible prioritaire les talibans, leurs rivaux dans le pays. Mais est-ce que le retour au pouvoir de ces mêmes talibans ne va pas tout de même compliquer l'implantation de l'EI sur le territoire afghan ?
Si, ça réduit leur champ d'action, mais pas leur capacité d'action. C'est-à-dire que là, ils ont poursuivi les attentats, ils le font encore aujourd'hui, même dans des zones très talibanes comme Kandahar, etc. Et puis, il y a quand même, comme ça réduit leur champ d'action, leur champ de mouvement, etc., ils vont en effet davantage, ils vont passer la frontière, notamment sur la frontière nord, et vont davantage s'installer, reconstituer des bases, etc., dans les pays d'Asie centrale, qui sont à la frontière nord de l'Afghanistan. Et notamment un pays comme le Tadjikistan, mais on a aussi des traces sur la frontière turkmène, hein, le Turkménistan, et l'Ouzbékistan, on se demande un peu si on les voit moins, mais c'est surtout le Tadjikistan. Et le Tadjikistan, c'est aujourd'hui un pays qui est au centre des inquiétudes à la fois, non pas simplement des Russes, hein, victimes aujourd'hui d'un lourd attentat commis essentiellement par les Tadjiks, mais également de la communauté occidentale.
Ok, donc on voit comment l'EIK s'est implanté au-delà de l'Afghanistan dans tous ces pays d'Asie centrale, dont le Tadjikistan, qui est aujourd'hui un vivier de djihadistes et dont, tu le disais, sont issus les auteurs présumés de l'attentat de Moscou. Question, pourquoi est-ce que l'EIK cible aujourd'hui spécifiquement la Russie ?
Il s'en prend à la Russie parce que aujourd'hui, la Russie figure parmi les rares pays qui soutiennent le régime taliban, hein, qui a repris le pouvoir à l'été 2021. Même si Moscou ne reconnaît pas officiellement le gouvernement taliban, néanmoins, il milite assez ardemment et régulièrement sur la scène internationale pour la levée des sanctions, pour l'intégration de ce régime au sein du Concert des Nations, etc. Donc ça, c'est vraiment la première raison. Et par ailleurs, c'est aussi pour contester d'autres choses, c'est-à-dire que la Russie était effectivement l'un des principaux soutiens du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Et enfin, il y a aussi un troisième élément plus logistique, plus pratique, qui a été soulevé ces derniers jours par les services de renseignement occidentaux, qui est de dire que ils ont aussi profité d'une forme de, c'est paradoxal pour une dictature qui est sur un langage de force comme la Russie, mais c'est aussi un territoire qui est beaucoup plus accessible, notamment par le biais des pays d'Asie centrale, ex-pays de l'Union soviétique, ex-république de l'Union soviétique. C'est aussi une zone qui est beaucoup moins défendue, contrairement à ce qu'on le croit, et qui est beaucoup plus accessible pour les militants, enfin les membres de l'État islamique, que la zone européenne ou américaine.
Et donc Jacques, maintenant que le groupe a démontré sa capacité de se projeter hors de sa zone de contrôle et de faire des attentats à l'étranger, est-ce qu'on doit craindre aujourd'hui que des attentats puissent être menés bientôt en Occident ? Quel est l'état de la menace de l'EIKA ?
C'est clair que l'EIKA, aujourd'hui, est la branche qui a réussi à se restructurer et à redevenir un danger pour les pays étrangers. Sur sa capacité de projection dans des pays, on va dire, dans la région, ils ont déjà montré leur savoir-faire et leurs moyens d'action. Au mois de janvier, ils ont attaqué deux cibles en Iran, un pays qui est censé pourtant avoir des services de sécurité et être un pays très fermé. Il y a 84 morts tout de même. Là, de nouveau, ils attaquent Moscou. Donc, on peut aujourd'hui vraiment, et d'ailleurs, ce sont les services de renseignement occidentaux qui le disent, hein, ils disent la menace de l'EI est de nouveau concrète, alors qu'elle était relativement minime sur sa capacité de projection. Et d'ailleurs, l'année dernière, en mai 2023, les polices aux Pays-Bas, belges et allemandes, avaient démantelé un groupe de 7 personnes, parmi lesquelles se trouvaient essentiellement d'ailleurs des gens issus, qui venaient d'Asie centrale. Et la justice allemande, qui a travaillé sur cette affaire, a mis en évidence des liens entre ces gens-là et des cadres de l'EIKA. Donc aujourd'hui, c'est une menace qui est crédible, qui est sérieuse, et je crois qui inquiète beaucoup les services de renseignement occidentaux.
Merci Jacques.
Merci à vous.
Si vous voulez en savoir plus sur cet attentat à Moscou et les conséquences qu'il pourrait avoir, je vous renvoie vers notre site lemonde.fr où les reportages et analyses de nos correspondants et experts vous attendent. Et en vous rendant sur abopodcast.lemonde.fr, vous pourrez bénéficier d'un essai de 30 jours pour découvrir tous ces contenus gratuitement. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.